7h44 à Paris, tout de suite la revue de presse. La revue des journaux africains. Bonjour Frédéric Couteau.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
À la une, au Niger, le général Tiani assoit son pouvoir.
À Niamey, au centre de conférence Mahatma Gandhi, hier, 20 mois après avoir renversé Mohamed Bazoum, le général Abdourahmane Tiani s'est offert une consécration officielle, constate le Point Afrique. Il a été en effet investi président de la République du Niger, chef du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie depuis le coup d'État de juillet 2023. Il endosse désormais un pouvoir absolu, renforcé par sa promotion au rang de général d'armée. La cérémonie orchestrée à sa gloire a été marquée par la signature de la charte de la refondation, un texte à portée constitutionnelle qui prolonge la transition pour 5 ans, sans garantie de retour à un ordre démocratique d'ici à 2030. Plus qu'un simple cadre de gouvernance, commente le Point Afrique, cette charte scelle l'emprise militaire sur l'État, balayant les principes démocratiques en vigueur avant le putsch et redéfinissant l'architecture politique du pays selon les termes imposés par la junte.
Cerise sur le gâteau, note pour sa part, Jeune Afrique, après la cérémonie militaire de remise de ses nouveaux galons, le chef suprême m'a réservé une dernière surprise.
Oui, à savoir la signature d'une ordonnance actant la dissolution de tous les partis politiques nigériens. Désormais, au Niger, relève Jeune Afrique, il faudra s'adresser au chef des putschistes du 26 juillet 2023 en employant cette formule. Président de la République du Niger, chef de l'État, chef suprême des armées, chef de l'administration, grand maître des ordres nationaux, général d'armée Abdourahmane Tiani.
La presse nigérienne s'enthousiasme.
Le parcours du général Tiani se passe de tout commentaire, s'exclame Tam Tam Info. C'est un homme de terrain, c'est un homme d'expérience, c'est un leader charismatique qui impose le respect. Félicitations et vœux de réussite dans sa nouvelle fonction. Mais le plus difficile reste encore à venir, tempère Tam Tam Info. Assurer la sécurité des Nigériens et de leurs biens sur l'ensemble du territoire national, promouvoir le développement socio-économique du pays et assurer la justice pour tous. Le général d'armée Abdourahmane Tiani sera globalement jugé sur sa capacité à assurer la sécurité dans nos villes et nos campagnes et sa capacité à assurer une meilleure répartition des immenses richesses du Niger au profit de tous.
Tiani, installé président du Niger, un nouveau chapitre pour la nation et un défi à relever pour le général renchéri l'événement Niger.
Le pays est confronté à des défis sécuritaires, notamment dans la région du Sahel, ainsi qu'à des difficultés économiques et sociales. L'instabilité politique qui a marqué les derniers mois du régime précédent a exacerbé les divisions internes, créant un besoin pressant de réconciliation et de reconstruction. Le mandat du général Tiani est donc placé sous une lourde responsabilité, pointe encore l'événement Niger. Son leadership sera scruté par les Nigériens et la communauté internationale. La réussite de la transition, la mise en place d'un véritable dialogue national et la gestion des attentes populaires seront les enjeux majeurs de son quinquennat.
Une aube nouvelle sous l'égide du général Tiani, le Niger entame sa refondation, insiste le journal du Niger.
Une refondation qui s'inscrit dans un contexte régional mouvant, note le journal. Depuis le putsch, Niamey a tourné dos en effet à des partenaires historiques comme la France, tout en tissant des liens plus étroits avec la Russie et ses voisins de l'AES. Cette réorientation, si elle galvanise les partisans d'une émancipation africaine, suscite des murmures d'inquiétude chez ceux qui voient un pari risqué dans une zone minée par le terrorisme et les rivalités géopolitiques. Le général Tiani, désormais général d'armée et président, incarne une espérance pour les uns, une énigme pour les autres, pointe encore le journal du Niger, car si la charte de la refondation promet un renouveau, son exécution reste une partition délicate à jouer. Le journal du Niger de s'interroger, les 5 années à venir seront-elles le socle d'une nation réinventée ou bien un échiquier sur lequel s'entrelaceront ambitions, défis et incertitudes? Dans l'ombre du Mahatma Gandhi, dont l'esprit pacifique planait sur le lieu de la cérémonie d'hier, le Niger s'élance, porté par une foi ardente, mais escorté par des questions qui, elles, demeurent sans écho.
Frédéric Couteau, vous revenez dans une demi-heure en studio pour la revue de presse internationale. National, Frédéric, et vous nous parlerez de cette coalition des volontaires.
Oui, la coalition des volontaires, c'est le nom de l'initiative franco-britannique qui doit réunir aujourd'hui une trentaine de pays alliés prêts à aider davantage l'Ukraine. La presse, nous le verrons tout à l'heure, souligne que tout reste encore à faire.
À tout à l'heure.
RFI, toute l'actualité, Andréane Mélard.
Et cette coalition de volontaires pour l'Ukraine à la une, hein, vous l'entendiez, une trentaine de dirigeants attendus, mais aussi le patron de l'OTAN. L'idée, c'est notamment de réfléchir aux garanties de sécurité à fournir aux Ukrainiens et notamment le sujet du déploiement d'une force de maintien de la paix. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, est arrivé hier à Paris et lors d'une conférence de presse conjointe avec Emmanuel Macron, le dirigeant français a annoncé une nouvelle enveloppe d'aide pour l'Ukraine de 2 milliards d'euros. Il sera notamment question de l'Ukraine lors de cette visite. Le ministre français Français des Affaires étrangères est à Pékin, en Chine, et Jean-Noël Barrot a plaidé hier pour un partenariat franco-chinois puissant face au contexte géopolitique. De nouvelles manifestations hostiles au Hamas se sont tenues hier dans la bande de Gaza. Des centaines de personnes se sont rassemblées à Gazaville et à Bethlaïa. Et dans le même temps, Israël a menacé hier d'élargir son offensive dans l'enclave palestinienne si le Hamas ne libère pas les otages. Et puis, c'est le nouvel épisode de la guerre commerciale lancée par Donald Trump. Hier, le président américain a annoncé de nouveaux droits de douane, cette fois sur l'automobile. Ces taxes s'appliqueront à toutes les voitures qui ne sont pas fabriquées aux États-Unis. Au Brésil, le président Lula a déclaré que son pays ne pouvait pas rester sans rien faire face à l'offensive douanière américaine. Et puis la Corée du Sud, toujours en proie à de violents incendies, des feux d'une ampleur jamais vue, ont décrit les services de secours ce jeudi. Le bilan humain est passé à 26 morts et jusqu'ici près de 36 000 hectares ont été ravagés. Les feux de forêt révèlent la dure réalité de la crise climatique, a déclaré le responsable des opérations de secours. Il s'exprime ce matin sur notre antenne, le président de la commission des affaires étrangères du Sénat de RDC et ancien ministre des affaires étrangères, Christophe Lutundula. Il est notre grand invité Afrique ce matin de passage à Paris pour une mission de travail conduite par le président du Sénat français. Il a répondu à Esdras Dikoumana.
Christophe Lutundula, bonjour.
Bonjour.
Vous venez d'être auditionné par la commission des affaires étrangères du Sénat français. Quel message leur avez-vous adressé?
Notre message est simple. Il y a nécessité pour la communauté internationale de renforcer les sanctions contre le Rwanda et son président pour obtenir que la résolution 2773 du Conseil de sécurité, la demande unanime de la communauté internationale de cesser le feu, de retrait des troupes rwandaises de la RDC et de mise en œuvre du plan de démantèlement des FDLR, que tout cela soit appliqué, que ça devienne de réalité. La France est un pays membre permanent du Conseil de sécurité. La France est un pays qui participe au leadership de l'Union européenne et avec lequel nous nous retrouvons au sein d'une communauté, la francophonie. Et donc, c'est normal que nous puissions visiter nos collègues pour les sensibiliser afin que la France assume totalement ses responsabilités, que le gouvernement français participe activement à cette démarche-là.
Alors, vous êtes ici pour donner ce message, hein, alors que le processus de Luanda, que vous aviez entamé en tant que chef de la diplomatie congolaise, vient de se conclure par un échec. Pourquoi, selon vous?
Je ne pense pas que c'est un échec. Le président Lourenço a accompli sa mission. Je crois que tout le monde oublie rapidement la mission qui a été confiée par l'Union africaine. C'était de maintenir le dialogue entre le Rwanda et la RDC pour résoudre les conflits qui les opposent. Et aujourd'hui, le président Lourenço, grâce à lui, on a obtenu des solutions acceptées par toutes les parties. Si le président Kagame n'a pas refusé de venir en Angola le 15 décembre, on aurait signé, on serait passé maintenant à la phase d'exécution.
Jusqu'ici, en fait, on avait un médiateur, hein, le chef de l'État angolais, un président très influent sur le continent africain, qui a finalement jeté l'éponge et qui va être remplacé cette fois par un panel de 5 anciens chefs d'État qui vont suivre une feuille de route qui a été concoctée par l'EAC et la SADC. Est-ce que cela n'a pas rendu caduc ce qui avait été convenu avant? Ce n'est pas un nouveau processus qui commence maintenant.
C'est ce qu'il faut éviter. Effectivement, le danger est réel de recommencer. Et là, vraiment, on ne le souhaite pas. C'est une crainte qui est réelle. L'autre crainte, parce que ça fait quand même un peu trop de cuisiniers. Je crois que c'est une première en Afrique qu'on ait une médiation à 5. Il faut craindre de la lenteur, alors qu'il y a une urgence à la fois politique, sécuritaire et humanitaire.
Je ne sais pas si vous avez constaté que, en fait, il n'y a plus de Nairobi à part. Il n'y a plus de Luanda à part. Il y a un processus qui est fusionné aujourd'hui. Il y a une nouvelle feuille de route qui parle de négociations directes entre le gouvernement congolais et l'AFC M23 aujourd'hui, c'est comme ça qu'il s'appelle. Est-ce que le gouvernement congolais ne sera pas obligé de s'y plier?
La fusion n'est pas une bonne chose, à mon avis. Luanda et Nairobi sont complémentaires, certes, mais sont distinctes. Donc, vous les fusionnez. Première conséquence, et qui est dangereuse, c'est que cela veut dire que on légitime les arguments du président Kagame qui a toujours dit « pas de problème, c'est un problème entre Congolais » et lui, il est dédouané. La deuxième conséquence, elle n'est pas de moindre. Si ou tant qu'on n'a pas encore trouvé un compromis avec M23, l'armée rwandaise est fondée à rester en RDC. Alors que nous savons que le compromis avec M23 ne peut passer que si le président Kagame avalise, c'est-à-dire que s'il contient les desiderata du président Kagame, notamment d'avoir un espace d'exploitation économique, un espace d'influence. C'est ça les conséquences qu'on ne peut pas minimiser.
Et la question de la négociation directe entre le gouvernement et le M23, vous êtes pour ou contre?
C'est un problème qui ne se pose pas. Pour quelles raisons? Parce que si on entreprend une opération pour humilier le président Tshisekedi, pour humilier le peuple congolais, certainement je ne peux pas accepter.
Comment est-ce que le gouvernement congolais, selon vous, pourrait contraindre le M23 à rendre les parties qu'elle a conquises sans négocier?
Le M23 n'existe pas. C'est l'armée rwandaise. C'est une évidence qui ne se discute plus. Que le Rwanda sorte de la RDC, parce qu'on nous dit que c'est un problème congolo-congolais, et que on nous laisse résoudre nos problèmes.
Christophe Lutundula, merci.
Merci beaucoup.
Entretien avec Esdras Dikoumana, retrouvé sur notre site RFI.fr. Maman, votre carte postale du Gondwana, comme chaque matin. Aujourd'hui, vous nous dites que président fondateur exige de voir le bilan de l'opposition.
Oui, notre leader bien-aimé, son excellence président fondateur et le camp présidentiel sont fatigués de subir les jérémiades de l'opposition gondwanaise à chaque fois que l'élection présidentielle pointe son nez. Pendant le reste de l'année, on n'entend jamais parler de cette opposition aux abonnés absents. Mais immanquablement, dès qu'approche le scrutin présidentiel, eh bien, les opposants professionnels sont partout dans les réseaux sociaux et les médias complices. Heureusement que les médias sérieux, les médias publics comme Gondwana TV et Radio Gondwana refusent de jouer à leurs jeux enfantins en ne les invitant jamais dans leur studio pour cracher et répandre leur éternel venin contre l'œuvre fantastique de son excellence président fondateur, cet homme visionnaire qui a façonné la très très démocratique république et tous les gens qui sont heureux d'y habiter. Ses opposants-là, ils n'ont d'autre travail que celui de sempiternellement revenir prétendre poser leur candidature à l'élection présidentielle dans le seul but de prendre la place de notre leader bien-aimé. Mais c'est trop facile ça. Vous, donc, votre seule raison d'être, c'est être candidat à la présidentielle? Entre deux élections présidentielles, vous faites quoi pendant que président fondateur s'occupe de la vie des Gondouanaises et des Gondouanais? Répondez, au lieu de rédiger des tracts et de faire des lives sur Facebook. Vous ne voulez pas répondre? Vous savez, notre leader bien-aimé a prévu cette réaction-là, votre réaction puérile-là. C'est pour ça que désormais, avant de venir défier les représentants de la majorité présidentielle dans des débats télévisés, vous devez présenter votre bilan. Eh oui, on est au 21e siècle, mes amis. Les batailles électorales se font bilan contre bilan. Ah oui, hein, c'est trop facile de pérorer dans les médias et les meetings à coups de « Ouais, nous allons changer la vie des Gondouanais. Demain sera mieux qu'aujourd'hui. » C'est trop facile de conjuguer son action au futur simple. Il faut utiliser le présent de l'indicatif et le passé composé ou même l'imparfait. C'est ce que fait président fondateur dans ce pays. Il bossait, il a bossé. Et il bosse pour le bien-être des citoyens de ce pays. C'est ça son bilan. Et l'opposition, il est où son bilan? Non, hein. Ne venez pas nous dire qu'elle n'a pas de bilan, l'opposition, parce qu'elle n'a jamais été au pouvoir. C'est nul et non avenu. Quand tu viens poser ta candidature pour un job, tu dois étayer ton curriculum vitae, montrer ton expérience professionnelle pour le poste auquel tu postules. Donc, si elle veut être crédible, eh bien, l'opposition gondouanaise doit montrer son bilan pendant toutes ces années qu'elle a passées dans l'opposition. À lundi.
À lundi, maman. Demain, ce sera Charlotte Tamac que vous allez retrouver. Restez à l'écoute d'RFI dans 2 minutes, le journal.
Ce samedi sur RFI, Écho d'ici, Écho d'ailleurs, Bruno Faure.
Ce chef d'entreprise a traversé toute l'histoire récente de la RDC, dont il dirige l'un des plus grands groupes privés. Le Belge Georges-Arthur Forest, 85 ans, pense que l'Afrique peut nourrir le monde. Le vice-roi du Katanga, tel qu'il est surnommé, est notre invité exceptionnel.
Écho d'ici, écho d'ailleurs,
avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tous les samedis à 10h10 TU sur RFI.
À quoi ça ressemble quand des chercheurs trouvent? À moi. Grâce à la recherche, je vis avec le VIH. Mais je dois vivre avec un traitement à vie. Une santé plus fragile. Des discriminations. On vit, oui, mais on n'est pas guéri. Grâce à la recherche, on peut vivre avec le VIH. En aidant la recherche, on pourra vivre sans. Faites un don à SIDAction sur sidaction.org.
tout à l'heure sur RFI, de vive voix, Pascal Paradou.
Ba était la personne la plus importante au monde, une présence, un pilier, la gardienne de l'histoire familiale, écrit Mintra Nui dans son nouveau récit. Ma grand-mère et le pays de la poésie fait ressurgir les souvenirs d'une vie et de ses non-dits, le désir aussi de renouer avec ses racines.
Écoutez De Vive Voix avec Pascal Paradou du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI.
L'information continue sur la chaîne WhatsApp de RFI.
Chaque jour, vous pouvez retrouver directement sur votre téléphone les principaux titres de l'actualité internationale et les analyses de RFI, ainsi qu'une sélection de nos émissions. Pour nous suivre, c'est simple. Allez sur l'onglet « Actu » de votre application, abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez la communauté WhatsApp de RFI.
RFI sur WhatsApp, l'actualité autrement, l'information quand vous voulez.